Merci Pierre Chevalier, bonjour à tous. Quatrième temps ce jeudi d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la figure émérite de Claude Lévi-Strauss. Après Catherine Clément venue vous brosser le portrait d'un homme, d'un penseur qui a changé sa vie, Françoise Héritier qui vous a parlé des structures élémentaires de la parenté et du tabou de l'inceste, Vincent Debanne et Marcel Hénaff venus vous parler des Tristes Tropiques, le « roman » entre guillemets de Claude Lévi-Strauss, c'est aujourd'hui Martin Rueff, poète et maître de conférences à l'Université de Paris 7 qui enseigne la littérature et la philosophie et qui a participé à l'édition de la Pléiade, Martin Rueff qui, depuis Bologne, où il est en duplex, s'apprête à vous parler du Cru et le Cuit, soit le premier des quatre volumes des Mythologiques. Bonjour Martin Rueff.
Bonjour Raphaël Cohen.
Bonjour, bienvenue sur France Culture. La première question va d'elle-même, Martin Rueff, donc c'est le premier des quatre volumes des Mythologiques. On va revenir un tout petit peu sur cette entreprise, hein, sur ces cours qu'il a donnés et qu'il a rassemblés ensuite. Mais pourquoi ce titre, hein, Le Cru et le Cuit?
Écoutez, c'est la question fondamentale, évidemment. Il faut dire tout d'abord que ce titre, en fait, a pour ainsi dire un sous-titre, puisque le cours que Lévi-Strauss donnait au Collège de France et qui a donné matière donc à ce premier livre, était « Représentation mythique du passage de la nature à la culture ». Ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que le rapport, l'opposition du cru et du cuit, est une de ces représentations mythiques du passage de la nature à la culture.
Est-ce que c'est un procédé métonymique, tout simplement, façon de désigner la nature par le cru et la culture par le cuit ?
Oui, même si il faudrait tout de suite préciser que Lévi-Strauss, à la fin de cet ouvrage dont j'espère qu'on réussira à dire toute l'importance, à la fin de cet ouvrage, propose lui-même une théorie de la métonymie. Mais vous avez raison, si vous voulez dire que cette opposition creux et cuit est en quelque sorte métonymique d'une opposition globale qui serait la nature et la culture, oui.
Oui, mais en même temps, on connaît dans l'œuvre de Lévi-Strauss hein, le diptyque nature-culture et la difficulté d'ailleurs de le penser, puisqu'il surmonte les oppositions, les catégorisations élémentaires. Alors, si le cru et le cuit désignent respectivement la nature et la culture, qu'en est-il par exemple du pourri dont il parle aussi? Et pourquoi d'ailleurs le mot de pourri, hormis le fait qu'il est moins beau peut-être, ne figure pas dans le titre?
Alors je crois qu'en fait, pour bien répondre à cette question, il faut faire un pas en arrière. Dans Le Cru et le Cuit, en fait, Lévi-Strauss se propose d'étudier un premier dossier de mythes, hein, 200 mythes, qui tous sont issus d'un même berceau géographique, hein, le Brésil central et méridional, et qui tous, selon son hypothèse, mettent en jeu l'opposition du cru et du cuit. Alors ici, il faut dire tout de suite une chose, c'est que cette opposition, elle n'est pas aussi frontale, hein, il ne s'agit pas, si vous voulez, d'une dichotomie, il s'agit plutôt d'un couple.
Ou et du passage couple, de l'un à l'autre.
Du passage d'un à l'autre, absolument. Et du coup, ce qui intéresse Lévi-Strauss, c'est moins de dire, bon, on a d'un côté le cru qui symboliserait, disons, le naturel, et le cuit qui symboliserait le culturel, mais on a une série, disons, de continuités qui sont ensuite découpées par la pensée des Amérindiens eux-mêmes, ce que Lévi-Strauss appelle une pensée de la discrétion. Si vous me permettez, tout à l'heure, j'y reviendrai.
Allez-y, même maintenant, si vous voulez.
La thèse de Lévi-Strauss, c'est que, fondamentalement, nous, on aurait l'impression, les Occidentaux, que nous sommes du côté de la culture et que les Amérindiens ont une pensée qui est, sinon primitive ou sauvage, du moins beaucoup plus prise dans des complexités naturelles que la nôtre. Mmh. Ce qui intéresse Lévi-Strauss, c'est de dire, attention, le passage nature-culture, il n'a pas été simplement pensé par nous Occidentaux. Il est pensé de manière tout à fait extraordinaire et tout à fait profonde par les Amérindiens. Et ce que met le cru et le cuit en avant, c'est précisément cette pensée sauvage. C'est pour ça qu'on peut dire que, en un sens, le cru et le cuit est la première illustration de cette grande thèse de l'existence d'une pensée sauvage. Alors, justement, quand Lévi-Strauss étudie ces 200 mythes, ce qu'il montre, c'est qu'il y a toute une série de moyens termes, d'intermédiaires, ou comme il le dit lui-même, d'intervalles.
Il faut préciser, hein, les 200 mythes, on est dans le cru et le cuit, là. Hein.
Oui, parce que
l'ensemble des mythologiques représente à peu près un millier de mythes, on peut dire.
Oui, c'est ça, exactement, 827, hein, 830 à peu près. Et donc là, c'est les 200 premiers. Mmh. Et dans ces mythes, qu'est-ce que constate Lévi-Strauss? Il constate que, par exemple, le cru bien sûr, est dans une opposition au QI, mais il est aussi dans une opposition qui forme comme une gamme, si vous voulez, comme un dégradé, avec d'autres instances qui sont justement entre la nature et la culture. Par exemple, le pourri, bien sûr, mais aussi le corrompu. Hein. Et à la fin du volume, hein, dans les pages qui sont tout à fait importantes, je renvoie au lecteur à la page exactement 344, il montre qu'il y a une espèce d'évolution qui va du moisi au pourri, et d'autre part, une évolution rapide qui va du corrompu au brûlé. Et donc, on ne peut plus s'en tenir, si vous voulez, à une simple dichotomie, à un simple vis-à-vis, à une simple opposition spéculaire du cru et du cuit. La grande thèse de Lévi-Strauss, c'est que finalement, la cuisine, hein, cette occupation quotidienne, la cuisine est un des lieux à la fois rituel, un lieu de civilisation, un lieu aussi de socialisation, dont les Amérindiens se sont servis pour penser par mythe l'opposition du cru et du cuit, c'est-à-dire de la nature et de la culture.
En somme, le travail de Lévi-Strauss consiste aussi, on dit c'est un penseur de la nature et de la culture, il consiste aussi à parfois inverser les termes, à montrer que l'élément culturel n'est pas absent des sociétés qu'on dit primitives.
Absolument.
Et de cette façon, et de montrer comment cet élément est lui-même réinterprété, pensé. Mais alors, en même temps, il pense le passage de la nature à la culture sans solution de continuité, sans rupture.
Absolument. Alors ça, c'est vraiment
et c'est peut-être la valeur ajoutée de l'examen des mythes qu'il fait dans le cru et le cuit et dans les mythologiques.
Comme il le dit, la nature, hein, il le dit dans le cru et le cuit, c'est le matériau des mythes. Hein. Ce n'est pas leur signification, c'est le matériau. C'est-à-dire que finalement, pour penser ce que les anthropologues, les ethnologues et les philosophes pensent à partir de catégories conceptuelles, etc., eux, les Amérindiens, se servent pour penser le même phénomène, hein, le dégradé qui passe de la nature à la culture, eh bien, ils se servent de mythes dont le matériau est la nature. Par exemple, les animaux, hein, il y a des mythes absolument magnifiques sur les jaguars, des mythes magnifiques sur les oiseaux, des fleurs.
On ne dira jamais assez à quel point c'est un voyage, hein, Timbirage et Bororo, Ofaillé, Chevante, on se promène dans les tribus. C'est remarquable. Il faut dire quand même à quel point ce texte est à la fois un texte érudit, précis, d'anthropologue, soucieux de ce qu'il décrit, et en même temps un voyage constant.
Constant. Je crois que ce qu'il faut dire, si vous voulez, c'est que notre situation me rappelle un peu, si vous voulez, la situation de certains musicologues qui reprochent aux philosophes de parler de la musique sans les notes. Quand on parle de Lévi-Strauss et des grandes avancées théoriques de son œuvre, hein, et surtout dans Le Cru et le Cuit, puisque c'est vraiment la première avancée sur la pente de cette description de la pensée sauvage, finalement, on souffre un peu parce qu'on aurait envie de faire entendre les 200 mythes et leurs variantes qui sont présents. Je vous en donne un exemple, si vous me permettez.
Allez-y, je vous en prie.
Un que j'ai sélectionné parce qu'il est tout court. C'est le mythe extraordinaire Kaiowa qui s'appelle les yeux du jaguar. Le jaguar apprend de la cigale.
J'allais vous parler, moi, du dénicheur d'oiseaux. Vous voyez, parlons du jaguar.
Dénicheur d'oiseaux, vous avez raison, puisque c'est celui qui considère comme le mythe fondamental, hein, le premier, dont en fait le cru et le cuit est une longue explicitation.
Allons vers le jaguar.
Le jaguar apprend de la cigale que le crapaud et le lapin lui ont volé le feu pendant qu'il était à la chasse et qu'ils l'ont emporté de l'autre côté de la rivière. Le jaguar pleure, un fourmilier survient, auquel le jaguar propose un concours d'excréments. Mais le fourmilier fait une substitution, il s'approprie les excréments contenant la viande crue et fait croire au jaguar que les siens consistent seulement en fourmis. Pour se rattraper, le jaguar invite alors le fourmilier à jongler avec leurs yeux désorbités. Ceux du fourmilier retombent en place. Ceux du jaguar restent accrochés en haut d'un arbre, le voilà aveugle. À la prière du fourmilier, l'oiseau Makuko fait au jaguar des yeux d'eau qui lui permettront de voir dans l'obscurité. Depuis lors, le jaguar sort seulement la nuit. Il a perdu le feu et il mange sa viande crue.
Il faut lire le cru et le cuit aux enfants avant qu'ils s'endorment.
C'est un texte absolument sublime, hein, cette image du jaguar avec les yeux désorbités qui reçoit plutôt le service d'un oiseau qui lui met des yeux d'eau pour voir la nuit. Hein, c'est une image que tout poète aurait eu envie d'inventer.
Tout poète, dont vous, Martin Rueff. On va rester avec vous pendant 40 minutes encore pour parler du cru et le cuit. Et je voudrais d'ailleurs, puisqu'on a parlé du titre, qu'on entende Lévi-Strauss lui-même revenir sur les raisons pour lesquelles il a donné ce titre à cet ouvrage. Et puis ensuite, on reprendra à grands frais ce débat autour de deux questions, notamment. D'abord, que vaut le fait de rassembler tous ces mythes sous l'égide d'une structure binaire, le cru et le cuit, enfin encore faudrait-il qu'elle soit vraiment binaire, on va voir ça. Et puis, la place cardinale qu'occupe la musique dans cet ouvrage. Mais d'abord, Lévi-Strauss lui-même.
Le titre m'était en quelque sorte imposé doublement, d'abord par la matière du livre, ensuite par l'objet même de sa démonstration. Il s'agit en effet pour moi de montrer comment sont faits les mythes. Et travaillant sur des mythes, je devais naturellement m'incliner devant un certain nombre de notions que le philosophe n'hésiterait pas à appeler des catégories et qui sont les catégories de la pensée mythique. La philosophie occidentale raisonne sur des oppositions abstraites telles que celles de l'être et du néant, de la liberté et du déterminisme, du fini et de l'infini, que sais-je. La pensée mythique raisonne, elle, sur des catégories concrètes et sur des catégories qui sont directement tirées de l'expérience. Or, pour l'homme, et plus particulièrement dans les mythes dont je m'occupe, il n'y a pas de catégorie plus fondamentale que celle de cru et de cuit, puisque c'est avec la cuisson des aliments, racontent les mythes, que s'opère le passage de la nature à la culture, de ce que, même pour des sauvages, est conçu comme étant la sauvagerie, à ce qu'ils entendent par civilisation.
Martin Rueff est avec nous aujourd'hui, le poète et maître de conférences Martin Rueff est avec nous pour parler du cru et le cuit dans le cadre d'une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à l'œuvre de Claude Lévi-Strauss. Et c'est sous la musique de Wagner d'ailleurs que s'achève ce premier extrait, cette première archive de la voix de Claude Lévi-Strauss, extraite de l'entretien qu'il avait donné à Georges Charbonnier en 1959, notamment sur le cru et le cuit. Alors la musique de Wagner, pourquoi ? Parce que Lévi-Strauss, de son propre aveu, voit en Wagner, et il le dit dans le cru et le cuit, le père irrécusable de l'analyse structurale des mythes. On va en parler avec vous, Martin Rueff. Avant cela, je voudrais qu'on revienne sur la démarche du cru et le cuit. Cette volonté, Lévi-Strauss se propose lui-même de montrer comment des catégories empiriques, comme celle de cru, de cuit, de frais, de pourri, de mouillé, de brûlé, etc., peuvent servir d'outils conceptuels pour dégager des notions abstraites et les enchaîner en propositions, de sorte que on ne sait jamais vraiment si l'ambition de Claude Lévi-Strauss est de réhabiliter les qualités sensibles, ou si c'est au contraire de les hypostasier dans des structures abstraites, des grilles d'intelligibilité plus générales. Lévi-Strauss est-il empiriste ou systématique ?
Eh bien, écoutez, les deux à la fois. On pourrait vous souvenir de cette formule de Kant à propos de, dans une critique de Locke, d'empirisme réfléchissant. Je crois que l'extrait que vous avez choisi est absolument parfait et permet à tous de bien comprendre l'ampleur sans précédent de ce que Lévi-Strauss a essayé de tenter. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce qui est en jeu avec Claude Lévi-Strauss, avec ces mythologies, avec cette grande avancée d'une description de la pensée sauvage, ce n'est rien moins, si vous voulez, qu'une refonte de ce que on peut décrire comme la pensée humaine. Et ce que fait Lévi-Strauss, et ça je crois que c'est quelque chose, disons, qu'il faut vraiment souligner de manière massive, c'est que finalement, alors qu'au XVIIIe siècle, sous la pulsion de Locke et au-delà de lui de Hume et de Kant, finalement, on avait essayé de chercher la nature de la pensée dans des traités de l'entendement humain, c'est-à-dire en cherchant justement comme il le dit.
À l'intérieur même du sujet.
À l'intérieur même du sujet.
Dans les catégories du sujet.
Dans les catégories du sujet. Ce que fait Lévi-Strauss, lui, c'est qu'il va chercher le sens à l'extérieur, dans des lieux où on ne l'aurait jamais suspecté qu'il pût se développer, à savoir la pensée mythique, le développement des mythes. Et ça, je crois que c'est à la hauteur, ça veut bien dire, j'assume bien ce que je dis, ça veut bien dire que la portée des mythologiques, elle doit être évaluée à l'aune d'efforts comme ceux de la critique de la raison pure.
Oui, c'est ça. Mais est-ce que le propos de Lévi-Strauss, finalement, on fait de lui un ethnologue, un anthropologue, est-ce qu'il n'est pas, avant tout cela, un archéologue au sens foucaldien du terme, où il ferait l'archéologie des procédures de pensée qu'on voudrait initiale ou inaugurale en Occident, et dont, en vérité, il situe l'origine véritable dans l'examen des mythes d'une pensée indûment appelée primitive?
Absolument, vous avez tout à fait raison. Si archéologie, ça veut dire remonter à une série de principes, c'est tout à fait ça que tente Lévi-Strauss. J'avais été frappé par cette phrase de Hume, qui est connue dans l'enquête sur l'entendement humain, où il dit « Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de philosophe qui se soit proposé d'énumérer ou de classer les principes d'association entre les idées ». Finalement, cette rareté, alors évidemment Hume ici est critique à l'encontre d'Aristote, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que finalement, c'est ça le programme de Lévi-Strauss.
Oui, mais Martin Ruef, allez-y.
Étudier les principes d'association entre les idées. Mais comme vous l'avez dit, non pas dans des catégories qui seraient des a priori de l'expérience, mais à même l'expérience. Puisque ce qu'étudie Lévi-Strauss, c'est ce qu'il a dit dans l'extrait que vous avez eu la clairvoyance de produire, c'est la logique des qualités sensibles. C'est que finalement, en opposant le cru et le cuit, par exemple, on a affaire à des dispositifs de pensée, à des procédures, qu'on décrira peut-être dans le détail tout à l'heure, à des procédures qui sont des procédures de la pensée.
Mais alors, justement, démontrer l'existence d'une logique des qualités sensibles, ce qui est l'ambition de Lévi-Strauss, pas seulement dans le cru et le cuit d'ailleurs,
non, bien sûr.
Partout, c'est faire de Lévi-Strauss, enfin, c'est reconnaître qu'il est lui-même un homme des Lumières, l'ambition de Lévi-Strauss. Alors certes, il va chercher ailleurs que dans le sujet, il va nourrir par l'ethnologie sa propre réflexion, il va chercher ailleurs que dans le sujet, mais dans le monde, les éléments de sa réflexion et les prémices de la pensée. Mais enfin, l'ambition qui est la sienne, de repérer une logique, de trouver finalement un ordre sous l'apparence du chaos, d'établir une science des mythes, cette volonté, elle est quasi cartésienne. Je veux dire, c'est le Lévi-Strauss, en son fond, c'est un homme des Lumières, malgré tout, qu'il critique les Lumières.
Oui, vous mettez le doigt sur une difficulté de fond. C'est-à-dire que si vous voulez parler d'une intention qui serait vraiment celle d'un Aufklärer, comme vous le dites, votre formule est juste, c'est-à-dire au sein du chaos, disons, dégager des principes d'intelligibilité. Alors là, absolument, je pense que c'est tout à fait l'intention de Lévi-Strauss. En revanche, ce que Lévi-Strauss nous apprend, c'est que une thèse comme celle du cogito cartésien, je renvoie ici à un texte qui est tout à fait important, qui est le texte que Lévi-Strauss a consacré à Rousseau, fondateur des sciences de l'homme. Oui. Ce que Lévi-Strauss dit finalement, c'est que pour réussir à produire une connaissance de l'humain, eh bien, il faut se débarrasser du prestige de la philosophie réflexive. Pourquoi ? Parce que si on cherche un tête-à-tête de la pensée avec elle-même, si on cherche une série de coïncidences entre soi et le monde, entre soi et l'autre, bien finalement, on passe complètement à côté de pensées qui sont des pensées autres, comme celles justement des Amérindiens et des Bororos en particulier.
Allez-y.
Non, il y a une formule qui me semble tout à fait extraordinaire et qui peut-être répond en partie à votre question. Lévi-Strauss, dans l'attaque de son cru et le cuit, se demande finalement, avec un peu d'ironie, puisqu'il faudrait dire aussi que c'est un penseur ironique et très souvent plein de verve.
Plein de fantaisie, en tout cas, ça c'est fantaisie. Certain. Oui.
Il dit « Le propre de ce livre est de ne pas avoir de sujet ».
Oui, à double titre.
Et je crois, voilà, exactement, vous avez tout de suite saisi l'allusion, je crois que c'est tout à fait ça qu'il veut dire, c'est-à-dire il n'a pas de sujet au sens où il est très difficile, en effet, par exemple, de le résumer, même si on est en train de s'y essayer, mais en même temps, il n'a pas de sujet au sens où il n'y a pas un foyer de conscience fondateur auquel on pourrait remonter pour fixer le contenu de vérité des mythes. Peut-être qu'on en parlera de ça tout à l'heure.
Donc en somme, il se propose d'élaborer la grammaire d'une langue, de substituer à l'entendement universel des entendements collectifs, tribaux,
oui, oui.
Hein, particuliers oui, oui. Mais collectifs,
oui.
Mais à aucun moment de résoudre ça dans la figure d'un sujet. Vous avez parlé de Rousseau tout à l'heure,
oui.
Martin Rueff. Peut-être il y a un double héritage rousseauiste de Lévi-Strauss. D'abord, l'essai de Rousseau sur l'origine des langues, qui a beaucoup influencé la pensée de Lévi-Strauss. Et on oublie aussi de citer le second discours, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, le portrait que Rousseau fait, le portrait fictif que Rousseau propose de l'homme à l'état de nature, qui était très important pour Lévi-Strauss. Mais il y a peut-être une autre filiation avec Rousseau, c'est la musique. J'avais promis qu'on en parlerait tout à l'heure, Martin Rueff. Il faut préciser, pour l'auditeur qui n'a pas lu Le Cru et le Cuit, que Le Cru et le Cuit est tout entier constitué comme, j'allais dire, comme une symphonie ou comme en tout cas avec les chapitres ont des désignations musicales. Pourquoi ?
Alors, vous avez raison en soulignant à nouveau la continuité avec Rousseau. Hein. Je pense, j'y reviendrai à la fin de cette réponse, que la question tient justement, pour Lévi-Strauss comme pour Rousseau, à cette énigme. La musique, c'est bien l'art le plus construit, le plus abstrait, et en même temps, c'est celui qui touche au tréfonds, hein, de la nature humaine. C'est-à-dire, aucun art n'est susceptible de susciter la même, intensité passionnelle que la musique. Et donc, je crois que c'est ça, finalement, qui les intéresse. C'est l'opposition nature-culture. J'y reviens. En effet, le Cru et le Cuit est composé sous la forme, d'une œuvre musicale. La première partie s'intitule, et déjà, ça, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille des interprètes, thème et variations, c'est-à-dire que ce qui intéresse évidemment Lévi-Strauss, ce sont les variations. Dans cette première partie, vous avez deux chapitres.
Il n'y a pas que ça, je le dis pour l'auditeur. Thème et variations, le chant bororo, les variations, sonate des bonnes manières, symphonie brève, cantate de la sarigue, fugue des cinq sens, double canon renversé, toccata et fugue, symphonie rustique. Non, tout le livre est musical.
Bien sûr. Alors, c'est pourquoi... alors là, je réponds tout de suite à votre question, de manière peut-être plus précise encore.
Allez-y.
La musique offre à Lévi-Strauss des modèles compositionnels, si vous voulez. Ce que lui appelle, dans un texte tout à fait central pour qui veut étudier les mythologiques, les groupes de transformation. C'est-à-dire que finalement, la musique, c'est la transformation dans le temps d'un thème qui se répète mais change dans ses variations. Et bien finalement, un mythe, c'est ça pour Lévi-Strauss. C'est-à-dire qu'un mythe, quand il dit « il n'y a pas de mythe originel, il n'y a que des variantes », c'est bien ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que finalement... Le propre même du mythe, c'est d'être une suite de variations.
C'est dire chez Lévi-Strauss l'affinité profonde entre la musique et la mythologie. On va l'entendre lui-même revenir sur ce sujet.
Je vois que l'ouvrage est offert à la musique.
Il lui est dédié, plus exactement. La musique est véritablement le dédicataire. Cela, pour deux raisons. Une raison, je m'excuse de le dire, d'abord qui est d'ordre tout à fait intime. C'est que je souhaitais... que dans l'ensemble de mes écrits, et bien que l'occasion ne se présente pas souvent pour moi de parler de musique, quelque chose vienne attester l'importance considérable que la musique tient et a tenue depuis l'adolescence, dans ma formation intellectuelle et dans ma vie de tous les jours. Et puis aussi, pour une raison plus profonde, c'est que en analysant les mythes, en essayant de les décortiquer, j'ai été constamment ramené vers des formes musicales. C'est une thèse que j'ai commencé à soutenir il y a maintenant une douzaine d'années, qu'un mythe est construit comme une grande partition d'orchestre, c'est-à-dire qu'il exige une lecture en quelque sorte double, une lecture horizontale suivant ici le récit et là la mélodie, et puis une lecture verticale et d'ordre, par conséquent, harmonique. Et en dédiant le livre à la musique, en essayant de construire chaque partie sur une forme musicale traditionnelle, j'ai essayé de rendre plus manifeste encore cette affinité profonde entre la musique et la mythologie.
Empty sunshine, last piece of paper.
La musique réussit dans un laps de temps relativement bref, ce à quoi la vie elle-même ne parvient pas toujours, et encore à l'échéance de mois ou d'années, sinon d'une existence entière. L'union d'un projet à son succès qui, dans le cas de la musique, permet que l'ordre du sensible et celui de l'intelligible se rejoignent, simulant en raccourci cette exaltation de l'accomplissement total qu'à beaucoup plus long terme peuvent seuls procurer des réussites professionnelles, sociales ou amoureuses qui exigèrent une mobilisation totale de l'être dont, avec le succès, les tensions soudain se relâchent, provoquant une chute paradoxale, bienheureuse à l'opposé de celle consécutive à l'échec et qui engendre elle aussi des pleurs, mais de joie. Est-ce qu'on peut dire, Martin Rueff, qu'avec la musique, Lévi-Strauss a cherché et trouvé une sorte de voie médiane entre d'un côté la logique et de l'autre côté la perception ou la sensibilité?
Alors, cette thèse, elle est défendue par Marcel Hénaff hein, dans son dernier ouvrage.
C'est pour ça que je vous la propose.
Qui rassemble. Écoutez, elle est aussi, c'est aussi la thèse de Boris Weizmann, hein, qui est un des grands spécialistes de l'esthétique de Lévi-Strauss. Je dois dire, pour ma part, que j'aurais tendance à la, si on me passe cette métaphore musicale, à la tempérer. Mm-hmm. Le passage que vous venez de citer, qui est si beau, hein, j'espère que
c'est extrait de L'Homme nu. Hein,
c'est la fin, c'est le final de L'Homme nu, hein, c'est la page 586, je crois.
Bravo.
Les auditeurs ont été sensibles à cette thèse, qui en fait, hein, je le rappelle, est d'inspiration proustienne. Hein, c'est-à-dire cette idée que la musique, c'est le temps retrouvé, c'est-à-dire c'est l'expérience extratemporelle de la fin du temps retrouvé. Finalement, on est recollé à soi-même dans un instant.
Mais c'est la modalité de communication entre les âmes quand le langage n'y suffit plus.
Hein. Exactement.
C'est
exactement.
La même chose chez Proust, chez Lévi-Strauss.
Oui, tout à fait, tout à fait. Là, vraiment, Lévi-Strauss est parfaitement proustien. D'ailleurs, à la fin de L'Homme nu, hein, il y a un autre chapitre qui s'appelle l'aube des mythes, hein, une sous-section qui s'appelle le mythe unique, où Lévi-Strauss cite Proust, hein, une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous pour la sentir l'homme affranchi de l'ordre du temps. Donc s'affranchir de l'ordre du temps, c'est ce qu'offre et la musique et la mythologie.
Et l'ethnologie, on pourrait dire d'ailleurs.
Et l'ethnologie, si, comme le dit Lévi-Strauss de manière assez polémique au début de Le Creux et le Cuit, il est vrai que finalement son œuvre elle-même est la mythologie de la mythologie.
C'est surtout, est-ce que l'éloge de la mythologie n'est pas une façon de jouer le mythe contre l'histoire?
Ah, alors ça, absolument. C'est la grande.
C'est-à-dire contre le temps, c'est ça. Pour ça que je vous pose cette question.
Oui,
c'est-à-dire,
oui. Voilà. Oui. C'est-à-dire, c'est la thèse que les processus fondamentaux de la pensée humaine, finalement, ne sont pas affectés par l'historicité. Cette thèse qu'on trouve à la fin de la pensée sauvage, hein, qui est une thèse qui est avancée contre la dialectique de la théorie des ensembles de Sartre, hein, Lévi-Strauss dit finalement, si on compare justement, il n'y a pas d'histoire pour Lévi-Strauss, hein, et c'est ce qui m'avait frappé en établissant et en commentant Regarder, écouter, lire, qui est en quelque sorte le dernier chapitre de l'esthétique musicale de Lévi-Strauss.
Ça, c'est ce que vous avez fait pour l'édition de la Pléiade, qui vient de paraître.
Hein, oui, absolument. Lévi-Strauss montre, si vous voulez, que en fait, la thèse même d'une histoire de l'art, c'est-à-dire de filiation, etc., ne tient pas. Parce qu'on retrouve, dit-il, hein, chez les Amérindiens, chez les Japonais, chez Poussin, chez Ingres, ou chez des peintres contemporains, quand ils sont figuratifs, finalement, des mêmes dispositions, des mêmes règles de transformation. Hein, donc il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas plus d'histoire de l'art qu'il n'y a d'histoire. Alors, pour revenir maintenant à votre question, qui est, vous le savez, hein, une des questions centrales de la pensée sur Lévi-Strauss aujourd'hui.
Vous voulez dire la musique, hein, en l'occurrence.
Oui, c'est ça, le parallèle que vous établissez entre musique et mythologie, c'est-à-dire le rapport entre logique et sensibilité. On a souvent dit, c'est la thèse de Marcel Hénaff, que finalement, dans l'analyse des mythes, le modèle musical avait pris le pas sur le modèle linguistique. Et que donc, si vous voulez, Lévi-Strauss se serait rapproché, en quelque sorte, d'une sensibilité que le modèle disons, des linguistiques, hein, phonologiques de Troubetskoy-Jacobson, hein, auraient tenu un peu à l'écart. Je n'en crois rien. Je crois que, au contraire, et la mythologie, et la musicologie, si vous me permettez ce raccourci, pour Lévi-Strauss, sont des lieux qui sont intimement et sensibles, et intelligible. Et que le langage, évidemment, parce qu'il est signe, il est et sensible et intelligible. Et il n'y a pas du tout un relais d'un modèle par l'autre, ou comme le prétend un interprète récent aussi, un au-delà du structuralisme dans l'esthétique chez Lévi-Strauss. Pas du tout. Finalement, depuis la vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara, jusqu'à regarder, écouter, lire, c'est la même thèse, c'est-à-dire le fait que la logique humaine, la logique des hommes, les universels, comme dit Lévi-Strauss, de la logique, sont uniment intelligibles et sensibles.
En somme, l'adversaire de Lévi-Strauss, c'est l'opposition elle-même. C'est l'idée même d'opposition, c'est ce qu'on comprend en vous écoutant. On se dit que la pensée élargie dont Lévi-Strauss fait preuve, peut-être, et les malentendus qu'elle a suscités, disons que les malentendus qu'aurait pu susciter son œuvre, ou qu'a pu susciter son œuvre, viendraient du fait qu'on aurait tendance à opposer, comme on oppose nature et culture, opposer l'abstraction et la concrétude, opposer la sensibilité et la logique, alors qu'il s'attache à les penser, j'allais dire, non pas seulement simultanément, ce serait encore les séparer, mais dans un même mouvement.
Oui. Logique des qualités sensibles ou pensée sauvage, ce qui semble, hein, pour l'oreille non avertie, des oxymores, hein, sinon des contradictions dans les termes, pour Lévi-Strauss, en réalité, c'est le socle même.
Est-ce qu'il faut voir un lien avec Deleuze, la logique de la sensation ? J'y pense maintenant en vous parlant, selon vous. Est-ce que l'idée de logique de la sensation, après tout, est une idée qui n'est pas propre à Lévi-Strauss, hein ? Deleuze, c'est son premier livre, je crois, d'ailleurs.
Oui, c'est le logique de la sensation, c'est le livre sur Bacon.
Sur Bacon, hein, oui. Hein.
En fait, logique de la sensation, qui prend chez Deleuze le relais de logique du sens, hein, est à penser, en effet, comme un effort pour sortir, je dirais, d'une logique qui s'en tiendrait, si vous me permettez, à la première critique de Kant. Je crois que la thèse de Deleuze, hein, et l'interprétation que Deleuze avait proposée du structuralisme et qui est repris aujourd'hui dans les essais qu'a réunis David Lapoujade, le montre en effet, c'est que dans le structuralisme, il y a une pensée de la sensibilité. Alors maintenant, nous lancer ensemble, Raphaël Enthoven, vous et moi, sur le rapport que peuvent avoir chez Lévi-Strauss et chez Deleuze la logique et la sensibilité.
Ce serait aussi fantaisiste que Lévi-Strauss peut l'être.
Non, pas fantaisiste, mais je crois que ça nécessiterait un long détour, mais l'avantage de ce détour serait sans doute de nous offrir une vision beaucoup plus juste de ce que fut l'entreprise structuraliste et, de manière plus large, de ce que furent les années 60-70.
Mais pour avoir cette vision plus juste également, il faut en passer par une notion qui est infiniment, que Claude Lévi-Strauss a rendue infiniment problématique, qui est l'idée d'universel. On a le sentiment que Lévi-Strauss, bien souvent, s'en prend à l'idée d'un universel qui serait tout entier l'effet d'un sujet, du sujet cartésien, qui se prenant lui-même pour l'humanité tout entière, oubliant justement le fait que son opinion est en elle-même ethnocentrée, eh bien, déboucherait sur un comportement, il faut le dire comme ça, impérialiste. Et donc il y aurait chez Lévi-Strauss cette critique d'un universel agressif, d'un universel belliqueux, mais en même temps chez Lévi-Strauss, constamment, me semble-t-il, cette volonté de témoigner en confrontant les coutumes d'une même architecture profonde d'esprit entre les humains. Je voudrais qu'on l'entende sur ce sujet et avoir ensuite votre sentiment là-dessus, Martin Rueff.
La confrontation de coutumes, de croyances, que nous ne mettons pas en cause parce que nous les avons toujours pratiquées et que cela va de soi, mais avec les mêmes coutumes et les mêmes croyances, ou bien des coutumes et des croyances exactement inverses, contraires, et observées dans des sociétés profondément différentes de la nôtre, eh bien, c'est un petit peu comme de mettre une plaque impressionnée dans l'appareil photographique dans le révélateur. Tout à coup, nous voyons apparaître le squelette, l'ossature de croyances qui ne sont pas simplement leurs croyances, mais qui sont aussi nos croyances et qui s'éclairent, je ne dirais pas les nôtres par les leurs, parce que, en un sens, les leurs aussi s'éclairent par les nôtres. C'est une sorte de donnant-donnant, de réciprocité, et nous atteignons un substrat plus profond qui tient à la structure même de l'esprit humain, à ses modes d'opération, de fonctionnement, et qui font que dans des sociétés extrêmement différentes, on accepte pour acquis soit des croyances du même type, soit des croyances inverses les unes des autres, mais tout de même manifestent en positif ou en négatif la même architecture profonde de l'esprit.
Substrat, structure, Lévi-Strauss, Martin Rueff, est-il un penseur de l'identité ou de la différence ?
Alors, je dirais que c'est un penseur de l'identité.
On en fait en général un penseur. On l'identifie comme penseur de la différence. Mais...
Oui, je pense que c'est un penseur de l'identité à travers ses différenciations. Hein, j'espère que ça ne paraîtra pas comme une pirouette. La question que vous posiez, à laquelle Lévi-Strauss vient de répondre de manière magistrale, hein, dans les propos que vous venez de nous faire entendre, je pense qu'elle nous oblige à un déplacement. Et mm-hmm. je crois que la manière dont vous posiez la question nous permet de le faire. Aujourd'hui, d'un point de vue, disons, de la philosophie politique ou morale, quand on parle de l'universalisme, on parle la plupart du temps de contenu de l'esprit. C'est-à-dire que, par exemple, hein, on va chercher des contenus à des lois dont on dira, je ne sais pas, prohibition de l'inceste, l'habeas corpus, etc. On va dire, voilà, ce sont des universaux ou non. Quand Lévi-Strauss, lui, parle d'universel, ce n'est pas du tout ce qu'il a en vue. L'universel de Lévi-Strauss, ce ne sont jamais des contenus. L'universel de Lévi-Strauss, ce sont, comme il le dit, il vient de le dire dans les propos que vous venez de nous faire entendre, ce sont des opérations de l'esprit. Ce que Lévi-Strauss soutient, et là de manière vraiment affirmative, thétique, assertive, depuis les premiers travaux jusqu'à regarder, écouter, lire, c'est qu'il y a, en effet, à travers toutes les cultures, des universaux de l'esprit. Ces universaux, ce sont les règles opératoires de l'esprit, ce qu'il appelle l'architecture. C'est-à-dire, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, les hommes, quel que soit l'histoire dans laquelle ils sont plongés, quel que soit le paysage qu'ils ont sous les yeux, fonctionne, leur esprit fonctionne de la même manière.
Ça, c'est un postulat, selon vous, ou c'est une constatation ?
Alors, je crois
Est-ce qu'il est parti au Brésil, jeune agrégé de philosophie, peut-être à la fois soucieux de se défaire d'un bagage abstrait et en même temps imprégné à son insu par ce bagage qui lui donne ce sentiment-là a priori ? Est-ce qu'en gros, c'est une idée qu'il a priori ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qu'il découvre ?
Écoutez, répondre à cette question, ça serait répondre de manière définitive à la question du kantisme de Lévi-Strauss.
Ben c'est pour ça que je vous la pose.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Lévi-Strauss est un penseur de l'a priori ou est-ce qu'il faut dire que son empirisme le conduit, par nécessité, du côté de vérité a posteriori ?
On l'a traité de kantien, si j'ose dire, comme
oui,
si c'était une insulte. C'est Ricoeur qui a parlé du kantisme de Lévi-Strauss.
Et au début de Le Cru et le Cuit, hein, de l'ouvrage que nous commentons, Lévi-Strauss reprend la formule de Ricoeur, et la reprend à son compte en disant, hein, page 19, « Nous reconnaissons parfaitement cet aspect de notre tentative sous la plume de M. Ricoeur lorsqu'il la qualifie avec raison de kantisme sans sujet transcendantal. » Qu'est-ce que ça veut dire, un kantisme sans sujet transcendantal, hein ?
Ben, pas grand-chose, justement, c'est ce que j'allais vous dire.
Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire que finalement, le sujet transcendantal, c'est celui qui organise, hein, les catégories de notre expérience, et finalement, si on enlève le sujet transcendantal, on voit mal comment pourrait tenir ensemble les catégories de l'expérience. La thèse de Lévi-Strauss, c'est que ces catégories de l'expérience, ce qu'il appelle donc l'architecture de l'esprit, eh bien, elles tiennent à l'écart d'une philosophie réflexive, d'une philosophie du sujet, dont Kant, selon lui, reste prisonnier. Ça, on peut bien lui reconnaître. Donc, si on veut répondre de manière précise à votre question, je crois qu'il y avait une thèse partagée par Lévi-Strauss, à savoir qu'il y aurait des catégories de la pensée, que ces catégories seraient des universels, et je pense que les 800 mythes étudiés dans Le Cru et le Cuit ont donné raison à cette thèse. Voilà ce que je dirais.
On va entendre Paul Ricoeur, justement, dont on vient de parler.
Oui.
Or, voici que se déploient les sciences humaines. Et avec les sciences humaines, une tâche nouvelle, penser le système, dont le modèle est le langage. Oui. C'est là que la philosophie française est en train de prendre un nouveau tournant. Elle trouve dans la linguistique, dans les sciences des signes, une nouvelle tâche réflexive. Avec Lévi-Strauss, des possibilités nouvelles sont ouvertes et aussi une grande tâche. Celle de considérer toutes les réalités humaines, non plus comme des choses que l'on peut observer, mais comme des signes échangés, comme des symboles à déchiffrer et à interpréter. Nous sommes aujourd'hui au seuil d'une nouvelle époque de la pensée française, dont la tâche principale sera de sauver la tradition réflexive à travers l'exactitude mathématique et l'objectivité des nouvelles sciences humaines.
On comprend, Martin Rueff, peut-être en quel sens Paul Ricoeur parle du kantisme de Lévi-Strauss. Peut-être qu'il s'agit, en somme, puisque Kant est un philosophe de la relation, c'est un philosophe du rapport entre le sujet et l'objet. Alors, ici, il ne s'agit pas du rapport entre le sujet et l'objet, mais de substituer des choses toutes seules, de les remplacer par les relations, les signes, les symboles, le tissu de relation dans lequel elle se situe. C'est peut-être là son kantisme.
Oui, l'extrait est particulièrement bien choisi. Hein. Je veux insister là-dessus. Pourquoi ?
Parce grâce en soit rendue à Adèle Van Rett qui travaille avec nous sur ses archives. Allez-y.
On entend dans la formule de Ricoeur une inquiétude qui est il faut sauver la philosophie réflexive contre ce qui pourrait sembler être les coups de boutoir de l'anthropologie structuraliste. Je crois que finalement, ce que fait Ricoeur de manière admirable, d'essayer, si vous voulez, de domestiquer la pensée de Lévi-Strauss. Il y a un chercheur jeune qui a montré ça de manière magnifique, c'est Bruno Carcinti dans son travail sur Mauss, L'homme total, où il montre en fait que finalement, et Durkheim, et Mauss, et Lévi-Strauss pour la philosophie réflexive, qu'il repère évidemment chez Merleau-Ponty et Ricoeur, ont constitué des tentations et en même temps des risques. Il y a une manière, je pense, plus simple et moins historiographique de le dire, c'est une fois de plus de revenir au texte. Au début du Cru et le Cuit, on a un passage qui me paraît tout à fait important pour votre questionnement. Voilà ce que dit Lévi-Strauss. « Nous ne prétendons donc pas montrer comment les hommes pensent dans les mythes, mais comment les mythes se pensent dans les hommes et à leur insu. » Et il poursuit. Et peut-être ainsi que nous l'avons suggéré, convient-il d'aller encore plus loin. En faisant abstraction de tout sujet, donc exclusion du sujet transcendantal, pour considérer que d'une certaine manière, les mythes se pensent entre eux. Alors si vous me permettez, j'aimerais utiliser un argument grammairien. J'espère que ça ne vous choquera pas.
Au contraire, allez-y.
Alors, en français, on le sait, le pronom réflexif dans les verbes pronominaux a deux significations. Il a une signification qu'on appelle « réfléchi », je me lave, je me pense, et une signification qu'on appelle distributive, qui est, par exemple, ils s'embrassent, au pluriel, généralement, quand ils s'embrassent, ça veut dire ils s'embrassent les uns les autres, pas ils s'embrassent eux-mêmes, leurs propres mains. Bon. Ce que propose, me semble-t-il, Lévi-Strauss, c'est le passage d'une interprétation réfléchie du pronominal « les mythes se pensent » à une interprétation distributive. Ce qui est intéressant pour Lévi-Strauss, ce n'est pas que les mythes se pensent de manière réfléchie eux-mêmes, c'est que les mythes se pensent entre eux, dans le passage. Et j'en trouve une confirmation dans la toute fin du livre, j'imagine que vous l'avez sous les yeux.
Absolument.
Page 346, c'est la fin du livre. On est, si vous voulez, au moment où il s'agit de tirer la somme du jeu, le gain du jeu. À la fin de cette page 346, voilà ce que dit Lévi-Strauss. Et si l'on demande à quel ultime signifié renvoient ces significations qui se signifient l'une l'autre, donc des règles de transformation, ils s'embrassent, la distribution, pas le réfléchi, mais dont il faut bien qu'en fin de compte et toutes ensemble, elles se rapportent à quelque chose, l'unique réponse que suggère ce livre est que les mythes signifient l'esprit qui les élabore au moyen du monde dont il fait lui-même partie.
Ainsi peuvent être simultanément engendrés les mythes eux-mêmes par l'esprit qui les cause et par les mythes, une image du monde déjà inscrite dans l'architecture de l'esprit, où on retrouve, là encore, l'idée d'une architecture générale, de l'esprit. Ce qui est fascinant et peut-être donne à tout à cet ensemble sa dimension presque romanesque, j'allais dire presque poétique, Martin Rueff.
Ouais.
Ce qui est fascinant, c'est que, en somme, ce qu'il dit ou ce qu'il appréhende ou ce qu'il essaie de penser est d'une certaine manière, me semble-t-il, à la fois évident dans la mesure où il en fait l'expérience, qu'il le décrit, etc., mais en même temps insoluble. C'est un objet insoluble, c'est un objet insaisissable. C'est toujours un objet qui semble emprunter à une tradition, à une autre, les faire jouer ensemble, mais on ne saurait, me semble-t-il, formaliser ou formuler ou réduire ou résumer cette ambition.
Non, je crois que vous avez bien raison. La preuve de ce que vous dites, c'est que quand Lévi-Strauss s'interroge sur le point final de ce que pourrait être sa démarche, il dit finalement, la seule manière de faire de la mythologie, c'est de produire de nouvelles interprétations. De même que la seule manière de comprendre la musique, c'est de composer à partir des musiciens qu'on aime, Wagner, Debussy, Ravel, qui sont tous présents dans Le Cru et le Cuit, de nouvelles mélodies. Finalement, je crois que la thèse fondamentale de cet ouvrage, et je crois qu'elle vaut pour l'ensemble des mythologiques, ce n'est pas seulement une thèse sur le rapport nature et culture, que Philippe d'Escola vient de radicaliser, en quelque sorte. Mm-hmm. Ce n'est pas simplement non plus une thèse sur la fin de l'exception humaine, pour parler comme Schaeffer, c'est-à-dire la thèse selon laquelle, finalement, il n'y aurait pas de solution de continuité entre la nature et la culture. Non.
Ni une thèse sur la mort de l'homme, d'ailleurs, comme chez
Ni
Foucault.
Ni une thèse sur la mort de l'homme, pas du tout, du tout.
Parce que Lévi-Strauss est pris dans le procès fait par les humanistes à Foucault, en général, comme l'un des tenants, lui aussi, à sa manière, de la mort de l'homme.
Oui, à cause des dernières pages de L'Homme nu, du final, oui, bien sûr. Non, je crois que la thèse de Lévi-Strauss, c'est une thèse de philosophie, de théorie fondamentale, qui est « qu'est-ce que ça veut dire comprendre ? Qu'est-ce que ça veut dire expliquer ?» Et là aussi, on peut dire que la clé de cette énigme qui nous mène à travers 200 mythes, elle est donnée à la fin du livre, quand Lévi-Strauss s'interroge de manière rétroactive sur ce qu'il a fait, et il dit « dans un cas comme dans l'autre, il parle des autres mythographes, on a laissé échapper le caractère distinctif des mythes, qui est l'emphase résultant de la multiplication d'un niveau par un ou plusieurs autres, et qui, comme dans la langue, a pour fonction de signifier la signification. » Alors, ce n'est pas du tout une redondance. Signifier la signification, c'est ça, l'ambition de Lévi-Strauss. C'est de dire comment l'humain, quel qu'il soit, et là, en effet, on a un universel, où qu'il se trouve, quelle que soit l'époque dans laquelle il pense, signifie la signification. C'est-à-dire que les mythes sont des machines à faire penser la manière dont on pense. Et je crois que ça, cette thèse, elle est vraiment loin d'avoir été entendue dans toute sa radicalité. Et ce que je crois entrevoir, si je ne suis pas trop long dans ma réponse, c'est que on en trouve aujourd'hui un écho à travers certaines disciplines. Je prends un exemple tout simple. Dans Regarder, écouter, lire, mais comme dans Le Cru et le Cuit, Lévi-Strauss s'intéresse à ce qu'il appelle les transformations des œuvres les unes dans les autres. Finalement, il prend l'exemple que prenait Panofsky de Et in Arcadia Ego, de Poussin, mm-hmm. et dit bon, alors voilà, Panofsky l'a commenté de cette manière, etc. Et Panofsky, ce qu'il veut, nous dit Lévi-Strauss, c'est donner un point final à son interprétation, donner une source. Or, comme dans la mythologie, dans l'histoire de l'art, la question n'est pas la question de la source ou du sens, comme ce moment où se rejoindraient, si vous voulez, la source et l'interprétation. Pas du tout. La question, dit Lévi-Strauss, c'est de créer des groupes de transformation qui nous permettent de comprendre comment une œuvre se transforme dans une autre. Or, me semble-t-il, le succès qu'on accorde aujourd'hui à la pensée de Warburg, par exemple, ne tient pas à une autre raison. C'est-à-dire que finalement, la danse du serpent, c'est quoi ? Ce sont des motifs qu'on retrouve chez Botticelli, chez les Indiens du Mexique, et qui sont aussi des groupes de transformation. Donc il me semble que la postérité des mythologiques est loin d'avoir été enregistrée ou sténographiée, pour ainsi dire, à sa juste mesure. On a affaire, vraiment rien que moins, à un des grands chefs-d'œuvre de la pensée occidentale.
Et bien, ce sera le mot de la fin ou le mot du début, c'est selon. Merci Martin Rueff.
Merci à vous.
Quelques regrets au terme de cette émission. Le mythe du dénicheur d'oiseaux dont nous n'avons pas parlé, les variations, on aurait pu parler des sonates, des bonnes manières, de la raison pour laquelle d'ailleurs on a inventé la fourchette, du statut de la fourchette dans les textes du XVIIe siècle. Enfin, autant de choses tout à fait passionnantes qui se retrouvent dans l'œuvre de Lévi-Strauss et en particulier dans Le Cru et le Cuit. On a parlé de Wagner également, dont vous entendez de nouveau quelques mesures. On aurait pu parler de Boulez, on aurait pu parler de Stravinsky, en particulier des noces dont Claude Lévi-Strauss fait grand cas. Martin Rueff, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 7, poète surtout, que vous enseignez la littérature et la philosophie, et que vous avez contribué à l'édition de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss dans la Pléiade. Bravo à vous, en particulier donc, regardez, écoutez, lire.
Merci.
« Demain, les nouveaux chemins de la connaissance seront exceptionnellement en direct et en public au musée du Quai Branly dans le salon de lecture Jacques Kerschach, entrée libre dans la limite des places disponibles. Je recevrai Victor Stoksovski, qui est chercheur et maître de conférences à l'EHESS, auteur d'un livre sur les anthropologies rédemptrices, Le monde selon Claude Lévi-Strauss, paru chez Hermann. On parlera avec lui de race et histoire et race et culture. Vous retrouverez, chers auditeurs, toutes ces références sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Que l'occasion me soit donnée aussi de remercier la RAI à Bologne qui nous a permis de vous avoir en duplex, Martin Rueff. Et merci également à Pierre Monteil à la technique, à Marie-Ange Garandeau à la réalisation, à Geneviève Méric, à Avril Ventura, Adèle Vanrette, Estelle Gap, Gabriel Alperne et Léonore Clovis. Sur France Culture, il est 17h50. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Albert Jacquard.